Vous écoutez France Musique.
Bonjour et bienvenue dans le Matin des musiciens du vendredi. Aujourd'hui, je retrouve pour vous un vieux complice, Mario Caroli. Bonjour Mario.
Bonjour.
Et Mario est venu avec une compositrice qu'il va jouer, qui s'appelle Kaya Sariao et qui est avec nous. Bonjour Kaya.
Bonjour.
La musique de flûte de Kaya Sariao, c'est assez considérable. Il y a plusieurs œuvres, on s'en fera l'écho, mais l'essentiel, c'est tout de même que Mario va jouer une pièce pour flûte seule, où il n'est pas seul avec sa flûte, mais il est aussi seul avec sa voix. Alors Mario, de quoi s'agit-il? Parce que vous parlez, vous dites des mots.
Oui, la pièce s'appelle « L'aconisme de l'aile ». Elle est inspirée à un fragment de Saint-Jean-Perse, prix Nobel. Et,
le texte de Saint-Jean-Perse, Kaya, c'est « Oiseau ».
Oui, ça vient de collection « Oiseau ».
Oui, 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 qui est un peu le chef-d'œuvre de Saint-Jean-Perse. Et donc, on commence par ce texte qu'on déclame au début. Au fur et à mesure, on le chuchote. Et au fur et à mesure, on est presque dévoré par la flûte. La flûte prend le dessus, donc fait disparaître la voix du flûtiste qui a chuchoté, a désarticulé les mots. Et vers la fin de la pièce, la voix ressurgit, ressort encore une fois de la flûte avant d'attaquer Coda. Voilà.
Kaya, cette pièce pour flûte et flûtiste parlant, ça s'est imposé tout de suite d'écrire cette manière de faire avec de la poésie dans le travail du flûtiste? Ou bien c'est venu en composant?
Non, c'était vraiment l'idée. L'idée, il faut dire que cette pièce est très ancienne maintenant. J'ai écrit ça il y a quoi, 32 ans, je crois, au moins, sinon pas plus longtemps. Et quand j'ai fait mes études encore à Freiburg, donc j'ai écrit cette pièce.
À Freiburg, vous étiez chez Ferneyhough ou chez Klaus Huber?
J'étais à Freiburg avec Brian Ferneyhough et Klaus Huber, les deux.
Alors, avant d'aller plus loin, à propos de L'aile du songe, un concerto dont nous entendrons une partie tout à l'heure, vous dites ceci: la flûte m'est familière depuis mes toutes premières pièces. J'aime ce son où la respiration est omniprésente et dont les possibilités en termes de timbre conviennent parfaitement à mon langage musical. Le corps de l'instrument permet l'écriture de formules progressant graduellement depuis des textures criardes, colorées de phonèmes chuchotés par le flûtiste, vers des sons purs et doux. Et puis vous dites ailleurs, j'ai toujours associé la flûte à l'oiseau, non seulement au chant de l'oiseau, mais aussi aux diverses configurations de son vol. Alors tout ça, c'est dans un bouquin qui a été édité par MF. C'est une sorte de... Oui, c'est ça, c'est une sorte de journal de compositeur. Alors Mario, si vous voulez bien, allons-y pour une première exécution d'une œuvre de 1981-82.
82.
Voilà. Qui est intitulée « L'aconisme de l'aile ». Flûte solo, mais le flûtiste est aussi un récitant. C'est à vous, Mario.
Ignorant. Ignorant de l'heure, ombre, et ne sachant de mort, que ceux qui sont consumés d'immortes. Au bruit lointain des grandes sources. D'une seule pensée. Thank you.
Mario Caroli pour le matin des musiciens. C'était L'aconisme de l'aile, une œuvre de Kaya Sarriao, terminée en 1982, inspirée d'un poème de Saint John Perse qui est dans le recueil Oiseau. Alors, Kaya, une chose m'a frappée que je n'avais pas ressentie en écoutant le disque. Quand j'ai préparé l'émission, j'écoutais le disque, et tout d'un coup, d'avoir entendu Mario, je me suis aperçu de quelque chose dont je ne me rendais pas compte, c'est le côté un peu figuraliste de ces grandes gammes à la fin. Est-ce que vous avez pensé au vol de l'oiseau? Oui, vous pensez au vol de l'oiseau, plus qu'à son chant, hein. C'est plutôt la figure de l'oiseau.
Quand je pense à des oiseaux, justement, je pense à leur vol.
Oui.
Et je pense à les lignes que leur vol dessine dans le ciel. Bien sûr, la manière qu'il gagne la gravité. Donc, tout ça, et il y a Saint-Jean Perse écrit tellement de choses poétiques sur justement ces choses. Et c'est vrai que, bien sûr, la flûte est comme un oiseau pour nous. Et souvent, on l'utilise comme ça dans la musique, mais en fait, ce n'était pas mon point de départ.
Votre point de départ, c'est donc une sorte de géométrie dans l'espace d'un objet qui bouge et qui est une personne vivante, un oiseau. Mais vous pensez aux oiseaux de Finlande, aux vols d'oies, ou quel genre d'oiseaux, ou des oiseaux en général?
Oh, très général, très général.
Donc vous n'êtes pas ornithologue à la Messiaen du tout?
Je ne suis pas du tout, même s'il faut dire que quand j'étais enfant, j'ai passé toutes les étés à la campagne dans les forêts finlandaises. Donc, je connais très bien les oiseaux. Mais non, je n'ai jamais noté la musique des oiseaux.
Alors, peut-être que vous avez envie de nous montrer quelques aspects. Par exemple, quelque chose moi qui me trouble beaucoup, j'ai envie de savoir un peu comment ça marche, c'est comment le récitant flûtiste devient peu à peu flûtiste. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples, Mario?
Oui, par exemple, au début de la pièce, quand je chuchote, sur deux fragments d'un mot, espace, elle utilise la résonance du S, de S, et l'explosion du passe du P, qui est une consonne occlusive, donc explosive, pour faire résonner l'instrument, et donc passer graduellement de « Il passe, nous laissons, et nous ne sommes plus les mêmes. Ils sont l'espace. » Et sur le T, cette note répétée, en fait, elle a choisi T parce que c'est la consonne avec laquelle on articule le son, mais c'est aussi la consonne du mot qui suit l'espace traversé d'une seule pincée. Donc le T fait la jonction entre la disparition de la voix du flûtiste dans la flûte, engloutie, et à la fin, quand ça ressurgit. Une seule pensée. Donc la pièce pour moi était toujours une espèce de parenthèse, de corollaire et de commentaire à cette image très forte qui est communiquée par le texte de Saint-Jean Perse.
Kaya, quand vous avez écrit cette musique, vous étiez en train de vous installer en France et le poème de Saint-Jean Perse me paraît de la poésie très très raffiné, très maniériste, même par certains côtés. Et vous compreniez le texte ou bien vous l'aviez pris pour des raisons phonétiques?
En fait, je n'ai pas très bien parlé français du tout à cette époque et j'ai trouvé le poème dans un livre bilingue des oiseaux de Saint-Jean Perse.
Oui.
Et en fait, c'était bilingue français-allemand.
Oui. Oula.
Et j'ai parlé allemand, bien sûr, j'ai fait mes études là-bas. J'ai choisi ce texte je l'ai compris en allemand. Mm-hmm. Et je me suis traduit ça en français, mais mes poésies, normalement, je veux toujours utiliser dans leur langue originale. Et c'était très beau en français. Donc j'avais des gens qui m'ont lu et je l'utilisais. Et Mario dit très bien que c'est quelque part toute la pièce est en fait une parenthèse entre ces quelques phrases. Et ce qui est génial avec la flûte, justement, quand on compare avec toutes les autres vents, c'est qu'on peut faire cette transition à cause de...
Embouchure.
Oui, embouchure. Que on ne peut pas faire des choses comme ça avec les autres instruments de vent.
Quand vous avez écrit cette pièce, Kaya Sarriao, est-ce que vous avez rencontré ou de la résistance ou des difficultés avec la flûtiste pour qui cela a été écrit? Ou bien ça s'est passé très naturellement?
En fait, quand j'ai travaillé cette pièce, j'avais une amie finlandaise qui s'appelait à l'époque Anne Raitio.
Qui est la dédicataire?
Oui, qui a fait des études avec Aurel Nicolet à Freiburg. Et c'est avec Anne que je montrais mes idées et les attestais.
Parce que votre instrument, à l'origine, c'est le violon plutôt, je crois.
C'est violon très mauvais niveau, piano un petit peu mieux. Orgue, ça va à peu près... Ça allait à peu près il y a 30 ans. Donc, je ne suis vraiment pas un bon instrumentaliste. Non.
Alors, on va faire un petit coup de rétrospection sans nostalgie avec, devinez qui, Antonio Vivaldi.
Thank you.
Le largo du concerto pour piccolo en ut majeur, Riom 443 d'Antonio Vivaldi, dans une version qui va faire hurler les puristes, mais c'est fait pour ça. Jean-Louis Baumadier est au piccolo et l'Orchestre National de France est dirigé par le grand Jean-Pierre Rampal himself. Alors, Kaya, pourquoi cette intervention de Vivaldi ici? J'ai l'impression que c'est quand même très loin.
Oui, c'est loin aussi dans le temps pour moi. Mais en fait, enfant, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette musique. Et j'ai aimé justement ce mouvement lent. Et c'était pour moi plein de tendresse et tristesse. Et je crois que ça a vraiment laissé des traces pour moi de, quand je pense à piccolo, justement. Pour moi, piccolo est un instrument fragile et tendre. Et peut-être même toute la flûte, parce que pour moi, flûte, c'est la respiration, c'est un peu l'âme.
Bien. Après une telle déclaration d'amour à la flûte, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh bien, on va écouter un autre genre de flûte, la flûte du Japon, le shakuhachi. Nous entendions une pièce qui s'appelle Onchirabe, pardon pour ma prononciation, parce que c'est une transcription. Naturellement, ça veut dire en japonais recherche, investigation. Et l'interprète, c'était Koashiro Miyata. Alors, le shakuhachi est une flûte qui a un son si particulier. Y a-t-il des rencontres, Kaya Sarrio, avec votre pièce, L'agonisme de l'aile?
Sûrement, et avec toute ma musique pour flûte. Je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai entendu la première fois la musique japonaise et shakuhachi, mais tout de suite, j'ai vraiment senti que ça correspond à moi, la flûte que moi j'aime aussi, parce qu'il y a cette intimité. Il y a aussi l'utilisation de bruit qu'on n'a pas entendu ici, mais qu'on peut entendre autrement, et ça a influencé mon écriture.
Et dans l'agonisme de l'aile, Mario, vous voyez une relation?
Oui, c'est pas du tout dans un sens imitatif, hein. C'est complètement absorbé et réinterprété. Mais il y a des choses qui peuvent être conduites effectivement à une écriture de Shakuhachi, comme ça par exemple.
Mario, est-ce que vous-même vous jouez du shakuhachi?
Non, j'ai essayé une fois, mais non, j'ai joué avec flûte et shakuhachi, j'ai joué. Et j'ai essayé une fois de jouer du shakuhachi, mais c'est complètement différent. Le trou de l'embouchure est très petit sur la flûte, et alors qu'il est énorme dans le shakuhachi.
Oui, ce n'est pas la même technique.
Donc, non.
Mais
non.
On peut s'en inspirer, comme vous venez de le montrer. Alors, je crois qu'on a déjà regardé un peu l'historique, l'environnement de la flûte chez Kaya Sarriao. Il faut maintenant écouter une deuxième partie de L'aile du songe, qui est un concerto pour flûte et orchestre 2001. Alors il y a une partie aérienne et une partie terrestre. C'est la partie terrestre que nous entendons, l'oiseau dansant, oiseau, un satellite infime de notre orbite planétaire, et c'est Camilla Oitinga qui joue avec l'orchestre de la radio finlandaise sous la direction de Jukka-Pekka Saraste.
Thank you. Thank you.
La deuxième partie, qui est intitulée « Terrestre », qui se découpe elle-même en deux parties, « L'oiseau dansant » et « Oiseau, un satellite infime de notre orbite planétaire », c'est « L'aile du songe », concerto pour flûte et orchestre 2001 de Kaija Saariaho, et c'était Camilla Oitenga avec l'orchestre de la radio de Finlande sous la direction de Jukka-Pekka Saraste. Alors Mario, vous avez joué, je crois, ce concerto.
Oui, bien sûr.
Vous l'avez joué dans la saison qui vient de s'écouler avec le...
Oui, je l'ai joué avec
le Philharmonique de Strasbourg.
L'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, hein, oui, en septembre dernier.
Alors, est-ce que vous avez travaillé avec Kaija ou...
Oui, on s'est rencontrés parce que je devais jouer le concerto avec l'Orchestre de la radio italienne il y a 10 ans. Et donc, je suis venu à Paris pour la rencontrer en vrai. Mm-hmm. Parce qu'on ne s'était jamais rencontrés avant. Et c'était une très belle séance de travail chez elle, je me rappelle. Et c'est un des concertos les plus beaux du répertoire. Hein. C'est magnifique.
Bon, voilà, c'est dit.
C'est vrai.
En présence de Kaija.
Ah oui, mais même en absence.
qui sourit.
C'est sûr. D'ailleurs, moi je trouve qu'on ne peut jouer que la musique qu'on aime vraiment. Sinon ça,
oui, je crois.
Ça relève aussi de la mystification, presque.
Bon, ben continuez. Alors... on a envie de faire un petit excursus du côté des pièces de clavecin en concert de notre Jean-Philippe Rameau, comme disent les gens compétents, comme s'il n'était pas à tout le monde le Jean-Philippe Rameau. C'est la Cupis, extrait du cinquième des pièces de clavecin en concert. Et il y a là des musiciens très... reconnus, qui sont des partenaires du Matin des musiciens du vendredi. Il y a Bruno Procopio, Patrick Bismuth, François Lazarevitch et Emmanuel Guigue dans La Cupis de Jean-Philippe Rameau.
Thank you.
Bruno Procopio, Patrick Bismuth, François Lazarevitch, Emmanuel Guigue, dans la Cupis, qui est la partie centrale de la cinquième des pièces de clavecin en concert, 1741, de Jean-Philippe Rameau. Alors, Kaya Sarriao, pourquoi Rameau ici?
Je ne connais pas très bien Rameau, mais en fait, j'ai entendu cette pièce, c'était chouette pour moi comme cadeau. Il y a 200 par des jeunes musiciens. Et je trouvais ça très touchant. Et j'ai compris que, en fait, moi, j'aime beaucoup les trios. J'aime beaucoup les trios. Pour moi, c'est plus intéressant qu'une sonate ou un duo, parce qu'il y a les communications en trois sens sont plus intéressantes. Et c'est une belle pièce que j'aime bien y revenir.
Alors précisément, vous arrivez à point nommé puisqu'on va entendre maintenant une pièce qui s'appelle « Cendre », qui est donc en français, au pluriel, de 1998. Et c'est une pièce pour flûte alto, violoncelle et piano. Et il faut se souvenir que vous avez écrit une pièce en deux parties, du cristal à la fumée, où il y a une flûte alto, un violoncelle et un orchestre. Qu'est-ce que vous avez pris du matériau de cette pièce? Comment on fait quand on prend du matériau d'une pièce pour une autre? Ça paraît très énigmatique quand on n'est pas compositeur.
On fait comme on peut.
Mais, les compositeurs répondent toujours comme ça.
Mais en fait, c'est souvent très naturel ce qui se passe, qu'il y a une certaine musique qui est essentielle, qui reste dans l'esprit. Et on a envie de retravailler cette matériau. C'est quelque chose de très organique, en fait, qui se passe. Et c'est ça que je fais ici. Mario a d'ailleurs joué cette pièce aussi.
Oui.
Et avec la pianiste. Que...
Oui, et avec Hans.
Oui, oui, oui.
Alors pourquoi ça s'appelle Cendre?
Mais justement parce que le matériau vient de à la fumée.
Du cristal à la fumée.
Oui, du cristal à la fumée déjà.
Alors après la fumée,
voilà. quelque chose comme ça.
Il reste les cendres.
Oui, mais aussi qu'il y a une sonorité assez grise dans cette pièce, quelque part, où ce sont plutôt des nuances de gris, parce que j'utilise beaucoup de bruit. Il y a le flûte en sol.
Flûte alto, oui.
Oui, flûte alto, que j'utilise très bruité.
Cette flûte alto a apparu beaucoup au XXe siècle. Les compositeurs, tout d'un coup, ont découvert la flûte alto. Je pense à la version originale des symphonies d'instruments à vent de Stravinsky, où il y a de la flûte alto. Et puis,
chez Ravel aussi.
Chez Ravel, chez Richard Strauss aussi.
C'est une flûte très poétique, hein, plus sombre. Donc elle a plus de grave, parce qu'elle va plus dans le grave. Et beaucoup de compositeurs aiment le grave. De la flûte, donc la flûte en sol, étant donné qu'elle a plus de grave, elle va plus dans le grave, en soi un peu plus poétique.
Est-ce que vous avez, Kaya, pensé à cette question de la tessiture quand vous avez mis un violoncelle à côté?
Parce que... Oui, bien sûr. De toute manière, ce sont les deux instruments qui sont beaucoup, beaucoup écrits. C'est violoncelle et flûte. Et flûte en sol, mais c'est aussi un instrument plus puissant, le sonorité plus puissant, justement dans le registre grave qui m'a intéressé ici.
Alors, on écoute le Cendre, une œuvre de 1998. Le flûtiste est Michael Elasuo. Le violoncelle, c'est votre violoncelliste attitré, Anssi Karttunen. Et puis, il y a aussi Tuija Akila au piano. On écoute donc Cendre de Kaya Sarriao. Thank you. Cendres, une œuvre de 1998 de Kaya Sarriao, flûte alto Michael Elasvuo, violoncelle Ansi Kartunen et Tuija Akila au piano. Alors, on va certainement maintenant avoir le plaisir, je ne vous l'ai pas annoncé, mais bon, de réentendre Mario jouer l'aconisme de l'aile. Et vous me rappeliez, Kaya, cependant que nous écoutions Cendres, que le concerto dont nous avons entendu la deuxième partie, comme l'aconisme de l'aile que nous allons maintenant réentendre par Mario, ce sont des œuvres qui sont intégrées à la poésie de Saint John Perse, dans les deux cas.
Oui, je trouve moi-même assez étrange que j'ai retourné 20 ans après dans le même poète et ces images qui sont vraiment très, très fortes et visuelles. Mmh. Plus que sonore, souvent.
Et vous n'avez jamais eu envie de mettre la poésie de Saint John Perse en musique avec une cantatrice ou un chanteur, un chœur?
En fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout.
Oui.
C'est étrange.
Oui, c'est curieux. Il y a des compagnonnages comme ça dont on n'a pas besoin d'aller plus loin, au fond.
Oui, c'était vraiment comme une inspiration souvent. Et quand, je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'est vraiment lié à la flûte. Mmh. Donc, et c'est pour ça que j'ai, comme dans le concerto aussi, il y a certaines des phrases chuchotées dans l'instrument. C'est étrange que je revienne comme ça.
Oui, parce qu'ils ne sont pas contemporains, l'aconisme de l'aile et le concerto, il y a quand même une grande distance
entre
les
deux. Oui, il y a 20 ans de différence, oui.
Donc, la flûte, à ce moment-là, c'était Saint John Perse. Et 20 ans après, c'est revenu à Saint John Perse.
Oui, je trouve ça étonnant, même parce que j'ai écrit quand même pas mal de la musique pour la flûte. Et
il y a une pièce pour flûte électroacoustique aussi.
Oui, il y a Noa Noa.
Oui.
Où, au contraire, ou par contre, on chuchote des journaux de Gauguin, de Tahiti.
Quand il était en Océanie, oui.
Oui, oui. C'est une autre histoire.
Oui, c'est pas. Ce qui veut dire que c'est la flûte est une personnalité qui vous touche de plusieurs manières à la fois. C'est jamais tout à fait la même histoire, la flûte. C'est comme le violoncelle, un peu chez vous.
Oui.
Il y a des instruments familiers, on dirait.
Oui, qui reviennent régulièrement. Avec la flûte, bien sûr, il y a justement le fait qu'il y a plusieurs flûtes. Mmh. Qu'il y a piccolo, il y a le flûte en oud, il y a un sol, il y a flûte basse. Donc, il y a chaque instrument déjà quand même un caractère très, très différent.
Mario, vous jouez de la flûte en sol aussi?
Oui, oui, bien sûr.
Et la flûte basse?
Aussi.
C'est parfait, les musiciens d'aujourd'hui. Mais c'était comme au 18e, hein, au fond.
Oui.
On jouait du violon, on jouait du hautbois, on jouait du clavecin. Oui. Alors, il y a peut-être encore quelques aspects. Avant qu'on vous réécoute jouer l'aconisme de l'aile, il me semble qu'à la fin, il y a des sons quasiment inaudibles. Et nos camarades de la technique, ils ont dû faire des raffinements pour arriver à capter ces...
Oui.
Moi, j'imite très mal.
Ce sont des harmoniques résidus, en fait, très aiguës.
Vous pouvez nous montrer comment ça se fait et nous dire de quoi il retourne exactement?
Ce sont des composantes de la colonne d'air. C'est des composantes du son.
Oui. Et alors, comment vous faites pour décomposer le son?
C'est très technique.
En fait,
on change la direction de l'air, la vitesse de l'air, la densité de l'air, parce que quand on les densifie, ces sons légers, ça crée un son.
Mm-hmm.
Voilà. Et alors, si on souffle de manière moins dense, on peut les sortir du son. mais sont des harmoniques, donc on fait une position d'un son. Dans ce cas-là, c'est un do grave, la note la plus basse de la flûte, donc la plus riche en harmonique aussi, parce que la colonne est très longue. Et après, je les laisse... Il y a, dans certains cas, on peut marquer une hauteur précise. Mm-hmm. Dans le cas du laconiste de l'aile, Kaya laisse l'interprète libre de jouer les harmoniques qui sortent au feeling. Je ne contrôle pas, en fait. Ça, je le fais sortir naturellement, automatiquement, parce que c'est ce que le compositeur demande. Par contre, on pourrait sortir une note précise. Voilà, même si parfois elle vibre, elle frissonne un peu.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Mmh. C'est extraordinairement riche, même si ce sont des éléments du son, ça donne une couleur.
Oui, c'est comme voir les composants de la lumière. Vous savez, quand on fait passer un rayon de lumière dans un prisme, on voit les couleurs.
Ça fait l'arc-en-ciel.
Voilà, ça c'est l'arc-en-ciel du son.
Est-ce qu'il y a d'autres instruments auxquels vous vous êtes intéressé de cette manière si folle, à part le violoncelle? Parce que c'est votre compagnon, la flûte.
C'est vrai, flûte, beaucoup. Le dernier, c'en est violon aussi pas mal. Et quelque part, quand j'ai écouté justement ces harmoniques que Mario a fait, il y a cette fragilité qui me touche. C'est vraiment très, très fragile. Et avec le violon, quand je travaille avec les harmoniques de violon, il y a un peu la même fragilité.
Bon, alors maintenant, Mario va se remettre au travail pour rejouer L'aconisme de l'aile, une œuvre de Kaya Sarriao que nous avons entendue une première fois en début d'émission. Et je pense que le meilleur moyen pour apprivoiser une œuvre, c'est encore soit de la rejouer quand on est instrumentiste, soit de la réécouter quand on est auditeur de France Musique. Mario, c'est à vous pour L'aconisme de l'aile de Kaya Sarriao, inspiré et absorbé, puisqu'on entend le poème, une partie, de Saint John Perse, le recueil Oiseau.
Ignorant. Ignorant de l'heure. Ombre, et ne sachant de mort, que ceux qui sont consument d'immortels au bruit lointain des grandes sauts. Il passe, nous laissons, et nous ne sommes plus les mêmes. Ils sont les mêmes. Thank you.
Merci Mario Caroli pour cette deuxième interprétation du Laconisme de l'aile, une œuvre de 1980-82 de Kaya Sarriao que vous avez rejouée pour le Matin des musiciens. Eh bien, je voudrais vous remercier tous les deux. Mario, merci.
Merci à vous.
Un concert dans les temps à venir ?
Oui, oui, fin juillet à Gubbio Summer Festival en Italie.
Kaya, un concert dans l'immédiat ?
Oui, pas tout de suite en France, mais en fait, je pars demain en Finlande pour un petit festival. Et là, j'aurai pas mal de ma musique jouée.
Bon, eh bien, bon retour en Finlande. Merci en tout cas Merci. D'être venu avec nous ce matin pour le Matin des musiciens. C'était un vrai plaisir car, au fond, on n'a pas si souvent que ça des compositeurs sous la main parce que Beethoven, Berg, Debussy, ben, ils ne sont pas là. C'est très ennuyeux, mais c'est comme ça. Nous étions en compagnie de Véronique Cardilès, Jean-Claude Mullet, Jean-Michel Bernot, Nicolas Slimani. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de France Musique et j'espère vous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure. Bon week-end.